RFI 9h30 à Paris, une heure de moins, Anne Djamena. L'actualité africaine, c'est avec vous, Édouard Dupénoat.
Et ce journal commence en direct de N'Djamena. On appelle l'un de nos envoyés spéciaux dans la capitale tchadienne, alors que l'élection présidentielle s'est ouverte progressivement ces deux dernières heures. Elle est en train de se refermer. Les législatives au Togo, dont l'UNIR, le parti au pouvoir, sort très largement en tête. Résultat provisoire annoncé il y a un peu plus de 24 heures. Le Parti démocratique sénégalais reprend pied sur la scène médiatique. Il observait un silence prudent depuis la présidentielle, après avoir appelé à voter PASTEF, faute d'avoir pu aligner son candidat Karim Ouad. Le Maroc se demande où sont passés 13 de ses imams envoyés en Europe pendant le Ramadan. C'est une pratique courante pour le royaume, mais cette année, tous ne sont pas revenus au pays. Et puis le sommet économique de Dallas, enfin, qui s'ouvre dans quelques heures. C'est aux États-Unis, avec un aréopage de responsables africains attendus et le sujet de l'AGOA sur la table. 8 millions d'électeurs et d'électrices du Tchad sont donc appelés aux urnes ce lundi 6 mai. Élection présidentielle qui met aux prises 10 candidats et qui doit permettre de solder une période de transition de 3 ans ouverte en avril 2021 après la mort d'Idriss Déby Itno. Nous sommes en ligne avec Esdras Dikoumana, envoyé spécial de RFI N'Djamena. Esdras, vous êtes dans le 7e arrondissement, dans le sud de la ville. Et là où vous constatiez tout à l'heure des bureaux qui ouvraient leurs portes, vous constatez maintenant que ce n'est pas le cas partout. Esdras, il y a encore quelques problèmes logistiques.
Oui, si je reviens sur ce que j'ai dit, eh bien, comme je l'avais dit, eh bien, le vote a commencé avec un petit retard, 45 minutes au carré 11 du quartier Moursal, où je me trouvais tout à l'heure. Depuis, eh bien, lorsque le scrutin se poursuit normalement, des queues même sont commencées à apparaître par endroits. Ce n'est pas le cas dans le quartier Siagua du 7e arrondissement, où plus de 2 heures après l'ouverture officielle du scrutin, personne n'a encore voté dans les centres de vote des carrés 1, 3 et 4, soit une bonne dizaine de bureaux de vote. Un chef de bureau nous a expliqué que l'Ange avait déjà constaté ce problème. Il y a de nombreux électeurs qui attendent patiemment le début du vote sous une chaleur de plus en plus accablante qui fait déjà 35 degrés à l'ombre.
L'Ange, c'est l'autorité nationale de gestion des élections dont vous venez de nous parler. Esdras, quels sont les grands enjeux de ce scrutin présidentiel?
Eh bien, il s'agit d'un scrutin qualifié de crucial pour l'avenir du Tchad, car il est censé mettre fin à une transition de 3 ans ponctuée d'épisodes sanglants. De nombreux Tchadiens espèrent que cette présidentielle pourrait permettre à leur pays d'en finir une bonne fois pour toutes avec les crises répétitives qui ont jalonné son histoire moderne, à condition que cette élection soit juste, et libre et transparente. Mais de nombreuses craintes sont apparues à ce sujet, notamment avec des mesures qui ne sont pas de nature à inspirer la confiance selon les ONG locales et internationales. Pas d'affichage des PV de dépouillement dans les bureaux de vote, et ces PV ne seront pas remis aux mandataires des partis politiques, pas de prise de photos des collectifs d'observateurs indépendants invalidés, mais l'Ange rassure que des mécanismes ont été prévus dans tous les cas en cas de contentieux. L'Ange assure également que tout est fin prêt et que le vote des nomades et des militaires hier s'est bien passé, malgré quelques irrégularités constatées par des journalistes et des témoins. Enfin, manque d'eau, d'électricité, chômage des jeunes, explosion du prix des produits de première nécessité. Le Tchad, pays pétrolier, traverse une grave crise socio-économique. La population espère que le prochain président, qui sortira des urnes, va s'attaquer à ces problèmes qui durent depuis des décennies.
Esdras Dikoumana, en direct de N'Djamena, où vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux. Cette journée de vote, on la suit toute la journée dans nos éditions et sur notre site, le www.rfi.fr. De nombreux opposants togolais ne décolèrent pas ce matin, plus de 24 heures après l'annonce par la CENI des résultats provisoires des élections législatives. L'UNIR, le parti au pouvoir, remporte 108 sièges sur 113 et tous les regards se tournent aussi ce matin vers le président Fornia Singbe qui a entre les mains une nouvelle constitution qu'il n'a plus qu'à promulguer. Peter Sassou Dogbe est notre correspondant à Lomé.
Le président de la République avait 15 jours à partir du 19 avril pour promulguer la nouvelle constitution dès la saisine du gouvernement. En se référant à ce délai, la promulgation aurait dû être faite vendredi le 3 mai. Cependant, aucune trace de la loi ne figure dans le journal officiel jusque-là. Pour Paul Amegankpou de l'Institut Tamberma pour la gouvernance, puisque la balle est désormais dans le camp du président de la République, il peut ne pas promulguer le texte, surtout qu'il est maintenant conforté par la victoire de son parti aux législatives. Le président pourrait revenir sur ce processus de révision constitutionnelle dans un cadre plus légal, légitime et consensuel. Il pourrait même le faire dans sa dernière mandature, estime l'analyste politique. Si la Constitution venait à être promulguée, les 5 députés de l'opposition, en plus des 108 du parti au pouvoir, éliraient le prochain président de la République avec un pouvoir honorifique et aussi le président du Conseil, une sorte de premier ministre, qui est le chef du parti qui a la majorité à l'Assemblée, selon cette nouvelle Constitution. Peter Sassoudo-Bellomé, RFI.
Et vous, auditeurs, auditrices de RFI, que vous inspire ce raz-de-marée annoncé de l'Union pour la République? Que vous inspire aussi ce régime parlementaire vers lequel le Togo pourrait donc basculer avec cette nouvelle constitution? Juan Gomez et les équipes d'Appel sur l'actualité vous donnent la parole sur ces deux sujets dans une quarantaine de minutes maintenant, 8h10, heure de Lomé. J'ajoute enfin que les résultats des élections régionales qui étaient couplées aux législatives doivent être dévoilés ces prochains jours. Un détachement de la garde nationale du Niger a été attaqué avant-hier matin. Aux premières heures, cela s'est passé à Sigidine. Nous sommes à environ 200 km de Dirkou, c'est la plus importante garnison militaire à cheval entre les frontières libyennes et tchadiennes dans l'extrême nord du Niger. Pas de pertes en vie humaine selon nos informations, mais plusieurs véhicules et du matériel ont été emportés par les assaillants. Le Front Patriotique de Libération, un mouvement rebelle tout bout, a revendiqué cette attaque dans un communiqué. Le Parti démocratique sénégalais sort de son silence, lui qui était resté quoi depuis la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle, se cherchant aussi une posture. On rappelle que le parti entendait bien présenter un candidat face à celui du PASTEF, mais Karim Ouad s'était vu barrer la route. Alors est-ce que le PDS est dans l'opposition? Est-ce qu'il est plutôt dans la majorité? À l'heure actuelle, en tout cas, il s'affiche satisfait par les premières mesures annoncées par le chef de l'État. RFI Dakar, Théa Olivier.
C'est la première fois que le Parti démocratique sénégalais, le PDS, prend la parole en public depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, pour qui le parti avait appelé à voter, car son candidat Karim Ouad avait été exclu de la course présidentielle par le Conseil constitutionnel. Bachir Diawara, porte-parole du PDS, se réjouit des premiers actes posés par le nouveau chef de l'État.
Le gouvernement a pris une mesure hardie de suspension des constructions au niveau du littoral. Nous nous en réjouissons et demandons à l'État de réfléchir sur la possibilité de la mise en place d'une taxe fiscale autour de 25% qui pourrait véritablement permettre à ce même État de faire des investissements du point de vue structurel pour régler en tout cas la question du logement social et des inondations.
Alors que le parti de Bassirou Diomaye Faye est loin d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, le PDS anticipe une potentielle dissolution du Parlement à partir de septembre et donc de nouvelles élections législatives dans la foulée.
Nous avons aussi également abordé les prochaines échéances pour dire que nous allons participer pleinement aux futures échéances législatives sous la houlette, n'est-ce pas, de notre candidat Karim Moïse Ouad.
Le fils d'Abdoulaye Ouad, exilé au Qatar depuis près de 8 ans, pourrait bientôt être de retour sans qu'aucune date ne soit encore annoncée. Théa Olivier, Dakar, RFI.
Le Sénégal, où plusieurs ministres ont démissionné ces derniers jours de leurs autres mandats électifs, à la tête de mairie ou de conseils départementaux, c'était la consigne donnée par le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, qui exige de son équipe qu'elle soit exclusivement concentrée sur sa tâche, incompatible donc avec le fait d'être maire. Lui-même a d'ailleurs démissionné de la tête de la ville de Ziguinchor. 3 semaines après la fin du Ramadan, le Maroc a perdu la trace d'une dizaine d'imams envoyés dans des pays européens. C'est une pratique pourtant habituelle. Le royaume finance chaque année l'envoi de nombreux guides religieux pour accompagner le mois de jeûne et de prière des fidèles marocains établis à l'étranger. Mais cette année donc, 13 ne sont pas rentrés au pays après ce Ramadan et ils ne donnent plus de nouvelles. Précision à Rabat, Victor Moria.
Ils sont titulaires d'une licence, d'un master, voire même d'un doctorat. Ils sont rémunérés mensuellement par l'État marocain pour exercer dans leur mosquée et bénéficier d'un aller-retour tout frais payé en Europe pour y diriger des prières du Ramadan. Pourtant, à l'issue de ce mois sacré, le 12 avril dernier, au moins 13 imams envoyés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques ne se sont pas présentés à l'aéroport et sont depuis portés disparus. Ces missions sont habituelles pour le Maroc qui compte des millions d'expatriés dans les pays européens. Chaque Ramadan, plusieurs centaines d'universitaires traversent la Méditerranée pour accompagner les musulmans marocains qui le souhaitent. Le processus de sélection est pourtant très strict, mais selon plusieurs médias marocains, les profils restés sur place seraient célibataires et sans enfants. D'après le quotidien Saba, le ministère des Habous aurait donc décidé de durcir les conditions de départ. Pour éviter toute mauvaise surprise l'année prochaine, il sera exigé que les imams soient mariés et pères de famille avant d'être envoyés en Europe. Victor Moria, Rabat, RFI.
Il est 2h40 à Dallas, dans l'État américain du Texas. Dallas hôte cette année du sommet d'affaires entre les États-Unis et l'Afrique. Sommet qui commence aujourd'hui par un simple tournoi de golf, le temps pour tout le monde de consolider et d'étendre son réseau. Mais sommet qui revêt des enjeux importants, puisqu'on y discutera par exemple de la pertinence de l'AGOA, cette loi américaine qui permet des exemptions de droits de douane entre les États-Unis et certains pays d'Afrique sur des produits bien particuliers. Un système clé, mais un système critiqué également, justement parce qu'il laisse de côté certains secteurs économiques et qu'il néglige aussi d'autres partenaires potentiels. Correspondance RFI, Thomas Arms.
Le sommet revient en Amérique après 2 années sur le continent africain. Dans le milieu de participants attendus, pas moins de 5 présidents africains, dont le libérien Joseph Boakai et le président angolais João Lourenço. L'Afrique francophone est aussi présente, avec des délégations ministérielles venues du Sénégal, du Togo, de Côte d'Ivoire, de RDC, du Maroc et de Mauritanie notamment. Pendant 4 jours, lors de réunions de haut niveau, avec de nombreux officiels américains venus de la Maison-Blanche, du gouvernement et de l'Organisation mondiale du commerce, il sera question d'agrobusiness, d'énergie, d'économie numérique, de sécurité informatique, de santé et des secteurs de la création. Le tout avec un objectif, pérenniser un partenariat durable entre le continent et les États-Unis, alors que la Chine et la Russie se sont fortement rapprochés du continent africain ces dernières années. D'ailleurs, aucun officiel d'Afrique du Sud n'est présent à ce sommet, alors que c'est un des principaux bénéficiaires de l'AGOA, et pour cause, le pays a choisi d'affermir ses liens avec Moscou. Thomas Arms, Houston, RFI.
Ce sommet qui doit durer jusqu'à jeudi. Enfin, autre rencontre, dernière phase de rencontre qui commence ce lundi, la phase nationale du dialogue intermalien. C'est la dernière. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est attendu tout à l'heure pour présider la cérémonie d'ouverture de ce dialogue. Bamako, 7h42, vous êtes avec Nathalie Amar.
Merci Edouard Dupénoat, bonne journée. C'est RFI Matin qui se poursuit jusqu'à 10h et au programme des